L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
C'est pour le quatrième numéro d'une série que nous faisons cette émission de l'Afrique dans tous ses états et toujours avec, bien sûr, Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, bonjour notre invité.
Notre invité, voilà, bonjour. Christophe, bonjour. Qui vous dit qu'il, finalement, qu'on va peut-être garder. Hein,
oui, peut-être oui garder. C'est vrai, on va avoir du mal à s'en séparer.
Ah, ça va être difficile, là, ça va être difficile.
J'ai pris racine chez vous, merci.
C'est ça. Alors Christophe, nous avons évoqué voilà votre naissance à Brazzaville, votre passage par Saint-Dié dans les Vosges, votre passage aussi, mais comment dire, marqueur, hein, n'est-ce pas Marie-Claude,
oui,
à Béziers, dans cette famille très
voilà,
accueillante.
Et dans les environs, et dans les hauts cantons, et dans le haut pays.
Nous sommes allés jusqu'à évoquer Roger Perfit, c'est dire.
Quand même, oui.
Et là, Christophe, vous arrivez à Montpellier pour une nouvelle vie. On peut dire ça, hein.
Oui, tout à fait, oui. Une nouvelle vie parce que c'est la rencontre avec... mes compatriotes, pas que les Congolais, c'est-à-dire en fait la communauté des étudiants africains. Et à cette époque-là, j'ai trouvé les étudiants africains très organisés, mais en fait par association et selon les pays. Il y avait l'association des étudiants du Congo, des étudiants du Gabon, du Cameroun,
Du Sénégal,
évidemment, du Niger. Mmh. Il y avait en fait tous les pays francophones et même des pays non francophones, des pays anglophones. Évidemment, dans ce cadre-là, j'étais un peu
perdu.
Pas perdu, mais très content d'une part de retrouver mes compatriotes congolais. Et de faire la connaissance des étudiants des autres pays. Ah oui, très important. Je vous ai parlé de ces associations-là, mais à cette époque-là, aussi, il y avait un cadre politique donné en Afrique. C'était la période après les révolutions qu'il y avait eu, la série des coups d'État, des renversements politiques où le numéro 2 prenait toujours la place du numéro 1, etc.
Nous sommes au début des années 80.
Avant 1977. Donc dans cette mouvance-là, etc., il y avait beaucoup de contestations. J'ai même vu des divisions, des réconciliations. Il y avait des associations qui étaient très, comment dirais-je, très politisées plus que d'autres. Et vraiment, c'était un cadre très, très bouillonnant, quoi, en fait, et très riche. Je me souviens encore, moi, j'ai dû, donc, sur le coup, m'initier à une, comment dire, pas, j'ai failli dire, je parle là de la politique, c'est-à-dire que comme ce n'est pas pour dire qu'on était tous... marxiste, ni socialiste, etc. Mais enfin, il y avait une mouvance quand même anti-impérialiste à l'époque.
C'est ça. Hein, en tout cas, vous étiez extrêmement engagé pour ce qui se passait sur le continent africain.
Ah, tout à fait, oui. Et le tout, il y avait une association qui était au-dessus de tout supranationale, quoi. Voilà, qui était la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Mmh. Voilà. Et le siège de la... de la ferme fêtée à Paris. Voilà. Et sur place, donc, il y avait des activités qui pouvaient aller des réunions politiques ou bien même des activités sportives. Je me rappelle qu'au football, il y avait des tournois à Montpellier que le Congo là, je suis bien content d'en parler, gagnait souvent Congo-Brazzaville. Même si quand on battait certains pays, je me rappelle que ces pays refusaient les années d'après de rejouer contre nous parce qu'on voulait garder le bénéfice de du succès précédent, enfin, etc. Mais bon, c'est pour la rigolade, mais enfin. Mais aussi, le contact sportif que j'ai eu avec les étudiants d'autres pays, avec les autres fédérations, les autres associations, c'est de remarquer que, en fait, à Montpellier, il y avait une concentration des meilleurs. Pas seulement au niveau des études, même sur le plan sportif. Alors, j'avais remarqué que quand la FIANF devait jouer contre tel ou tel pays, par exemple, contre le... Parce que je fais une parenthèse parce que les étudiants du Maghreb avaient aussi des associations. Il y avait l'association des étudiants d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, etc., etc. Alors, on les rencontrait aussi sur le plan sportif. Et je me rappelle...
Vous faisiez du sport,
Oui, tout à fait.
Quel sport faisiez-vous?
Le foot.
Ça avait changé de Béziers. Alors, oui, Béziers, c'était rugby.
Non, mais là-bas, j'étais supporter à Béziers.
Et là, vous étiez sur le terrain.
Et acteur.
Voilà. Là, ici à Montpellier. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de jouer dans l'équipe de la FEANF, parce que l'équipe de la FEANF à Montpellier, c'était recruter le meilleur joueur de chaque équipe. La formation de l'équipe, c'était voilà.
Donc vous étiez un bon joueur.
Le Congo, je ne veux pas. J'ai les chevilles déjà. Non.
À quel poste vous étiez alors?
J'étais attaquant.
Ah, je sais pas pourquoi j'en avais l'impression.
Oui, j'étais attaquant, j'étais numéro 10. Et donc j'ai eu l'honneur, en fait, pour les anciens qui pourront m'entendre, d'avoir joué avec la FIANF. Le dire déjà, ça veut dire que le Congo qui devait donner un joueur m'avait choisi. Et ceux qui m'avaient choisi, c'était les gens comme ceux que, enfin, des gens, mes aînés.
Bien sûr, les anciens. Ouais.
Les anciens qui étaient là,
les sages.
Voilà, et qui ne pouvaient avancer que le meilleur.
Alors, vous faisiez du foot tout en faisant des études?
Oui.
À quelle
oui.
université étiez-vous alors?
Alors, j'étais donc en sciences éco.
Sciences éco.
En sciences éco. À l'époque, il y avait. Il y avait deux filières, je me rappelle encore, pas assez à ce côté, deux filières, il n'y avait qu'une seule filière, mais d'une année sur l'autre, soit économétrie avec Ousset, soit avec Moury. Moury, c'était plus littéraire, plus... Bref. Je sais que deux années après, je crois, en deuxième année... Ouais. J'ai changé de filière. En fait, j'ai choisi une filière plus qui me convenait le mieux. C'était AES qui venait d'être créée, administration économique et sociale. Pourquoi aussi? Parce que je voulais moi, avec mon identité à l'époque, vite trouver du travail. Mais en France, je n'avais pas, contrairement à tous mes autres compatriotes.
La nécessité de retourner.
De retourner, ouais.
J'avais, de rentabiliser,
voilà.
Finalement.
J'avais estimé, pour moi, j'avais déjà fait j'avais déjà ma place ici, ouais, j'avais mes relations, ma structure ici. Voilà, je me sentais intégré ici. D'ailleurs, eux-mêmes le savaient. D'ailleurs, le Crous m'avait recruté à un moment donné. J'ai fait ça pendant 2 ans, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un étudiant africain qui connaissait bien la ville, qui connaissait bien les autres communautés, et capable d'accueillir les nouveaux arrivants. Mmh. Hein, et juste pour l'accueil, aller chercher à la gare, les amener au Crous pour faire les premières démarches. Et à partir de là, quand c'était fait, les amener, leur montrer les restaurants universitaires, les structures que tout le monde connaît, les universités pour celui qui allait en sciences, pour celui qui allait... Voilà. Mmh. Ça durait une journée, en gros. Donc le Crous avait besoin de quelqu'un, de
une personne référente, voilà, pour voilà. Guider et ses premiers arrivants finalement.
Tout à fait. Ouais. Et on m'avait choisi, je me rappelle, c'était Loco qui s'en occupait. Loco, c'était l'office. Je sais qu'il y avait accueil universitaire, je ne sais pas quoi là. Voilà, des étudiants.
Des œuvres, accueil pour les œuvres universitaires, peut-être.
Voilà, enfin un truc comme ça à l'époque.
On cherchera.
Voilà,
on cherchera.
Madame Mézou qui s'en occupait à l'époque. Je crois qu'elle n'est plus cette dame-là. Enfin bref, cette époque-là.
Voilà. Alors voilà, donc, ça c'est votre période universitaire. Voilà. Vous êtes étudiant, vous allez rester étudiant pendant quelques années. Et quand on est un jeune homme comme ça, il y a des amours quand même.
Oui.
Ça nous intéresse, Guylaine, Marie-Claude.
Oui.
On parie.
Je vois.
Footballeur, poste 10, comment ça ne peut pas séduire ces étudiantes.
À vrai dire, voilà.
Ah, ça ne s'est pas passé comme ça.
Alors. Quand j'étais à cette époque-là, j'ai rencontré, j'avais une copine à cette époque-là, et j'avais, comment dirais-je, on faisait des soirées étudiantes.
Bien sûr.
D'ailleurs,
c'est ça. Au milieu étudiant, il y a toujours des soirées. Ça n'a pas changé pour ça.
Non, pas du tout même.
Et je me rappelle qu'à cette époque-là, chaque pays choisissait un samedi soir pour faire une boum, une soirée. Et à cette époque-là, on allait au club, comment on appelle ça ? Il y avait une boîte, enfin, ouais. Si on peut appeler ça
une
boîte. Un dancing qu'on appelait, on allait au Look La Passe, voilà.
Ah.
Au Look La Passe, les anciens qui entendent ça doivent se dire, bon sang, mais c'est vrai, au Look La Passe, voilà.
Belle musique, qu'est-ce qu'il y avait comme musique au Look La Passe alors?
La musique africaine.
Ah, voilà.
Et je me rappelle que les booms du Congo avaient beaucoup de succès.
Ah,
j'ai l'impression que, vous pouvez peut-être penser à ça, que je tire beaucoup la couverture au Congo.
Un peu.
Mais c'est vrai, la musique congolaise en Afrique.
Oui, tout à fait. Même en Afrique, je confirme, tous les dancings de l'Afrique et par l'Afrique de l'Ouest, la musique congolaise est une des musiques vraiment qui est le plus dansante. Je confirme.
Tout à fait.
C'est pas du chauvinisme.
voilà. Je tenais.
Vous l'avez acheté, hein.
Je tenais quand même un peu à le dire parce que voilà. Même quand les autres pays faisaient leur soirée, souvent on invitait le disquaire congolais à mettre l'ambiance. Voilà. Donc il y avait des soirées, etc. etc. Alors, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait des soirées. Beaucoup de soirées avec les Congolais, et puis beaucoup de soirées avec les Antillais.
Ah.
Alors, beaucoup de soirées avec les Antillais.
On danse aussi aux Antilles.
Oui, on aime danser. Et d'ailleurs, curieusement, j'avais découvert que, nous, de temps en temps, on dansait sur quelques morceaux, enfin, à l'époque, voilà, des morceaux antillais. Mais que les Antillais aussi prenaient des morceaux congolais, notamment.
Mais parce que je crois que dans l'histoire de la musique, je crois que la musique congolaise est à l'origine de beaucoup de musique, y compris caribéenne, y compris de salsa. Enfin, moi, j'ai entendu dire ça,
et
je pense que c'est pas... Pour ceux qui connaissent la musique, c'est vrai, ils ont été à l'origine de beaucoup d'autres musiques.
Et d'ailleurs, quand j'allais dans les soirées antillaise, quand j'entendais une musique congolaise, je me rappelais encore de dans ce Congo, et d'ailleurs, petit à petit, j'ai eu des contacts avec, je me suis fait des amis antillais, plus tard, ces amis antillais ont formé un orchestre antillais à Montpellier qui s'appelait Afro Soul Typique. Pour les anciens, bonjour. Afro Soul Typique. Et Afro Soul Typique m'avait demandé, pendant certaines pauses, pendant les pauses musicales, en fait, quand ils arrêtaient de jouer, moi, je devais passer la musique à ce moment-là. Enfin, quand je dis la musique, les vinyles.
D'accord.
Les platines, j'avais une platine, etc. Voilà, j'avais un équipement. Donc, la parenthèse après l'orchestre, voilà, la pause, j'assurais la pause. Donc, j'étais quand même assez intégré dans le milieu antillais, entre guillemets. Donc, à telle enseigne, tous les Africains qui venaient après, dans les soirées antillaises, dansaient donc de l'antillais et de l'africain.
Grâce
à moi. Et petit à petit, certains, dont Irénée, d'ailleurs, que nous connaissons tous, notamment que Marie-Claude connaît bien,
Je pense. Il passe à la radio.
Il passe à la radio, voilà. Pendant longtemps, très de longues années, il m'a pris pour un antillais. Il me prenait pour un antillais.
Il m'a jamais dit ça.
Et quand il a appris plus tard que j'étais congolais, il n'en revenait pas. Mais si. Pourtant, tu étais tout le temps avec le antillais. Ah oui, parce que plus tard, je ne faisais pas que jouer de la musique avec eux, passer des disques avec les antillais. Mais je jouais dans leur équipe de foot aussi, parce que parallèlement, ils avaient une équipe de foot. Comme ils avaient besoin de... Donc, j'étais un peu mercenaire.
Mais ce n'est pas étonnant, parce que pour un Congolais qui se retrouve fils aîné d'une famille française dans les Hauts-Cantons, pourquoi pas, à un moment, passer pour un Antillais, hein, franchement.
Non, j'étais... Moi, ça me... Bon, voilà, c'était un peu la personnalité que j'ai eue à ce moment-là, voilà.
Au moment de la conquête amoureuse.
Ma question initiale, c'était les
amours. Ah, c'est vrai.
Vous nous promenez Christophe.
J'ai pas pu y échapper. Bon, alors, voilà. Alors, allons-y. C'est-à-dire que, je ne me rappelle plus. Moi, avec les dates.
Oui, dans les années. Là, on doit être maintenant dans les années 79.
Vu la promenade qu'on fait en ce moment, on n'est pas quelques années après.
80. Début 80, je retrouve une vieille copine, originaire de l'Ardèche.
Elle était vieille par l'ancienneté de votre amitié. Et
tout à fait. D'ailleurs, c'est curieux parce que j'avais connu son frère qui faisait médecine à Montpellier et sa petite sœur aussi que j'avais connu en sciences éco. Bon, enfin bref. Donc, elle, on se revoit, etc. Et elle travaillait déjà. D'ailleurs, bon, moi, je commençais déjà à travailler. Ah. J'avais eu un travail aussi.
D'accord.
Voilà. Oui, parce que quand même, je commençais à devenir sérieux à ce moment-là, comme on dit.
Malgré la rumba congolaise, la route.
Voilà, ouais, la fête. Mais au bout d'un moment, il fallait avoir quand même un peu la tête sur les épaules. Et on se met ensemble. Et 2 ans après... mon fils William est né.
Voilà. Premier garçon.
Voilà. Maintenant, il est né en 85. Oui. Donc, il a 34 ans maintenant. Mm-hmm. Voilà. Un grand gaillard d'1m87. Déjà, à 12 ans, il m'a mangé sur la tête. Tellement, il était grand. voilà. Autant j'ai une taille moyenne, je fais toujours des garçons qui sont très grands.
William était le premier d'entre eux.
Oui, voilà. C'est William. Bon, alors, malheureusement, au bout de 3 ans, on se sépare.
Ça arrive.
On se sépare avec le moment de William. Et donc, ça a été une période très difficile pour moi. Mmh. Et heureusement pour moi, je ne peux pas dire, je fais attention à ce que je dis, je ne peux pas dire que j'ai rebondi, non. Dans la mesure où l'année qui a suivi très vite après, je fais une rencontre à Montpellier de mon épouse actuelle, donc en 86, non attendez, 85, 86, non 88, 88, hein, en 88. En décembre 88, je fais la rencontre parce qu'on avait des amis communs, puis dans le milieu antillais.
Oui, parce qu'elle est
de Guadeloupe.
De Guadeloupe.
Voilà. C'est pas un choix. Hein. J'aurais pu tomber sur une Congolaise, sur une Gabonaise, ou même...
Sur une Vosgienne, pourquoi
ou
pas.
Oui, une Vosgienne, ou une autre ardéchoise.
Une
Béterroise. Ah oui. Ah ouais, ouais.
Mais ce fut...
Non. Ouais.
Ce fut elle.
La Guadeloupe. D'ailleurs, c'est pour ça que... à la fin, on mettra un morceau...
Ah, vous annoncez déjà la musique.
À la fin. Qu'on écoutera en son honneur.
Bien.
Voilà.
Ouais.
Donc voilà. Je ne sais pas, je peux dire son prénom.
Bien oui. sûr.
Ben voilà. Donc c'est ma rencontre avec Carita. Elle s'appelle Carita.
Très joli prénom.
Alors, Carita, curieusement, quand je l'ai connue, on s'est rendu compte que je connaissais sa sœur auparavant. En 86, j'avais connu sa sœur, voilà, et sa maman.
D'accord. Vous fonctionnez beaucoup en réseau.
Oui,
hein,
oui. Mais non, mais c'est le hasard, parce que...
Le hasard, moi je trouve qu'il y a beaucoup de liens.
Oui. Il y a toujours, là. tout à fait.
Ça fonctionne comme ça. Hein.
Absolument, je m'en rends compte que...
Vous vous rendez compte, finalement.
Il y a comme ça qu'on en sort. En fait, le hasard avait fait que sa sœur aînée...
Le hasard. Hein.
Sa sœur aînée avait son enfant qui a le même âge que William, mon fils aîné, dans la même crèche.
Et voilà.
Et le monde est petit. Et le monde est petit, Mike, comme on dit ici.
Oui,
hein.
Alors, je parle bien, puis pas toi, hein, franchement.
Alors, voilà. C'est pour cela que je parle du hasard. C'est après coup qu'on s'est rendu compte que j'avais connu ça. Sa sœur, son neveu et sa maman à la crèche, tout à fait par hasard, voilà. Et plus tard, quand j'ai connu le reste de la famille, voilà. on avait d'autres amis, des connaissances communes, etc.
La toile d'araignée.
La toile d'araignée.
C'est ça, ça grandit.
Et avec Carita qui va passer son concours en 80... Son CAPES en 93 et qui est admise au CAPES en 93. Qui dit CAPES dit intégration dans l'enseignement. Et le premier poste, je vous le donne en mille.
Béziers.
Non, plus. J'aurais bien aimé Béziers, c'est à côté. Hein.
Ouais, oui.
Aurillac.
Aurillac.
Ben, Aurillac, le patelin le plus enclavé que je connaisse. Vous savez que pour y aller, il faut 4 heures.
Non, parce que je crois que j'ai dû y aller passer une fois pendant des vacances, mais comme c'était un long périple,
c'est l'épreuve de la vie de Christophe. Oui, oui. Allez à Aurillac.
Ouais, Aurillac.
Je n'ai rien contre les gens du Cantal. Mais alors, écoutez, hein, franchement, faut y être né. Mais au demeurant, c'est un endroit sympa quand on y est. Hein, on avait fait quelques connaissances là-bas.
Vous êtes resté là-bas combien de temps, Christophe?
Heureusement pour nous, elle est restée un an seulement.
Oui, parce qu'elle est restée.
Même pas le temps de s'y habituer.
Non, juste. Quand elle est partie, j'ai dit ouf. Parce que pendant qu'elle y était, on faisait des démarches etc., pour le rapprochement.
Le conjoint.
Les conjoints, etc. Moi, étant à Montpellier, on me disait on en a connu d'autres qui ont attendu 10 ans.
Parce que Montpellier est très demandé.
10 ans, on me disait, le mieux, on me disait, mais il faut que des demandes de la Guadeloupe, comme elle était originaire de la Guadeloupe. Et moi, je demande.
Ça sera plus près.
Et moi, je demande ma mutation parce que je travaillais dans une caisse de sécurité sociale. Je vais y revenir.
Non. Allez, à l'essentiel, la Christophe.
On n'aura pas le temps.
Moi, ce que j'entends, c'est que voilà, vous avez rencontré Caretta, vous acceptez de. Vous allez jusqu'à Aurillac,
d'amour. Il faut lui donner une médaille.
Je partais à Aurillac tous les vendredis après-midi.
Ouais.
Et je revenais le dimanche soir. Et même quand elle était, quand elle prenait des congés, quand il y avait des vacances scolaires, j'allais les chercher parce que à ce moment-là, ma fille est née, ma fille. Avec Caretta, Axel, était bébé, était petite, elle avait 2 ans. Voilà. Donc j'allais les chercher pour venir passer des vacances scolaires, qu'on soit tous les trois, tous les quatre, avec William à Montpellier, parce que j'avais William toutes les vacances scolaires, pratiquement. Enfin, les petites vacances scolaires. Voilà.
Alors voilà, une petite famille, 3 enfants.
Et puis plus tard, en 95, il y a eu
Mathieu
Ferru en musique.
Voilà, Ferru de musique. Qu'on recevra peut-être ici bientôt à la radio,
J'espère.
Mathieu, alors manifestez-vous. Votre papa est passé par là, à votre tour. Donc Christophe, arrive le temps de la fin de notre entretien.
C'est dommage, hein, mais bon, on aurait bien continué, mais bon, c'est vrai que tout a une fin, et puis on est gentiment hébergé déjà, n'exagérons pas.
Oui.
Alors là, la musique que vous avez choisie, c'est justement l'honneur de
Caretta.
De Caretta. Ça s'appelle ?
Ça s'appelle, je vais le dire en français, naturel. Naturellement.
Allez, on écoute naturel, c'est un cadeau de.
Et puis au revoir à tous et à de prochaines aventures
de Christophe,
en tout cas. Et merci Christophe.
Voilà.
Et merci la technique, merci Stéphane.
Au revoir.
Vous-même, t'es qu'à espérer.